Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h, Philippe David, Laurence Perrault.
Il est 8h46 si vous nous rejoignez, merci de choisir Sud Radio. De bon matin, je vous rappelle le sondage du jour, suite entre autres au tweet d'Emmanuel Macron qui cite « La République ne tolérera jamais la haine ». Nous vous proposons de réagir sur sudradio.fr, sur l'hashtag Sud Radio pour Twitter ou le site évidemment Sud Radio sur Facebook avec cette question « La haine est-elle en train de gagner le pays ?» Eh bien on en parle d'ailleurs avec nos deux éditorialistes Frédéric Dabi et Christophe Bordet.
On va commencer avec vous Frédéric Dabi. Votre réaction sur l'attaque ou l'attentat de Bayonne, selon qu'on ait une terminologie lepéniste ou macroniste ?
Bien sûr, la condamnation, et elle a été unanime, elle a été unanime, y compris parmi le Rassemblement national, avec cette personne qui a fait partie d'une liste électorale en 2015, qui n'est absolument pas anodin. Cantonal, donc s'il était dans un des deux binômes départementaux. Voilà, on est dans un climat particulièrement lourd, les Français le ressentent et l'expriment dans nos enquêtes, même si nuançons un petit peu les choses et voyons les décalages entre l'agenda médiatique et ce dont parlent vraiment les Français. Quand on, par rapport au sondage qu'on a évoqué ce matin, mon cher Philippe, on avait posé une première question sur la place de la laïcité, la lutte contre l'islamisme dans les préoccupations des Français. C'était relégué derrière la santé, derrière les questions socio-économiques, derrière la défense de l'environnement, mais très clairement, les Français ont le sentiment qu'il y a un vent mauvais dans le pays et que la troisième partie du triptyque liberté, égalité, fraternité, la fraternité n'existe plus.
Christophe Bordet.
Écoutez, je pense que s'il y a un vent mauvais, en tout cas, il y a forcément des gens qui font souffler aussi ce vent mauvais. Alors, il y a déjà les politiques, La République En Marche, le président de la République aborde ce sujet de manière assez régulière depuis maintenant un mois et demi. Du côté du Rassemblement National, c'est un sujet qui revient évidemment régulièrement puisque c'est un des fonds de commerce. Je pense aussi que les médias ont peut-être leur responsabilité dans ce qui peut se passer dans un pays. Quand je vois la une, par exemple, puisque vous parlez de ce sondage de ce week-end dans le journal du dimanche, où effectivement la défense de la laïcité et les questions qui tournent autour arrivent dans les préoccupations des Français en septième position, on ne peut pas dire que ce soit le point le plus important pour les Français, puisque le point le plus important, c'est la santé et la lutte contre le chômage. Donc on est loin de ces problèmes-là. Et je pense que dans un certain nombre de quartiers, d'ailleurs aussi, il y a des quartiers où il y a des difficultés, et on les connaît, et on en a parlé 50 000 fois déjà sur Sud Radio, c'est pas nouveau. Mais il y a aussi des quartiers où tout se passe bien, et où les populations vivent normalement, vont travailler, vont à la mosquée, etc., sans que ce soit un problème. Donc, le résultat de tout ça, finalement, c'est que tout le monde est un peu responsable, à mon avis, de ce qui se passe. Que les politiques devraient faire attention à ce qu'ils disent et tourner leur langue cette fois dans leur bouche avant de dire tout et n'importe quoi. Que les journalistes ou ceux qui essaient de les imiter devraient faire la même chose. Parce qu'il y a un moment où on a tous une responsabilité sur ce qui se passe. Quand on est face, quoi qu'on en dise, à des âmes faibles, ou à des âmes sensibles, ce qui semble être un peu le cas du type qui a agi hier, parce que visiblement, dans ce que l'on peut lire, entendre, etc., et notamment de gens qui l'ont connu ou qui ont travaillé avec lui, ils n'en font pas un tableau intellectuel particulièrement rose. Bon, donc ça veut dire que les gens qui, aujourd'hui, quelque part, d'une certaine manière, ont une faiblesse d'esprit, peuvent se laisser influencer par ce qu'ils entendent et par ce qu'ils voient. Et il y a des gens, je suis désolé de le dire, mais qui allument l'allumette en permanence et qui font rougir les braises en permanence. C'est une réalité.
Frédéric Dabi, vous êtes d'accord avec ce nostra culpa généralisé de Christophe
Bordet ? Il y en aura pour tout le monde, pour reprendre une fameuse émission de Coluche. Mais je partage, au-delà du mot, je partage complètement ce que vient de dire Christophe, c'est cette idée de responsabilité collective. C'est l'idée, on en parlait ce matin, Philippe, qu'on parle de manière démesurée, hypertrophiée des questions religieuses, alors que dans toutes les enquêtes que nous faisons, nous croisons nos données par la pratique religieuse, on a dans les enquêtes entre 35 et 40% de Français qui se disent sans religion. Ramené au corps électoral, c'est entre 15 et 20 millions de personnes qui, en ont plus qu'assez. On se souvient d'un discours assez brillant de Jean-Luc Mélenchon.
Et surtout sur les 60% qui disent avoir une religion, combien de pratiquants ?
Très peu, bien sûr. Très peu, très peu. Donc il y a d'une part ce sentiment que la religion est omniprésente, et puis l'opinion qui a le sentiment d'être pris entre une tenaille identitaire et une tenaille d'extrême droite. Une tenaille identitaire où c'est haro sur l'islamophobie, où il y a une vision racisée de la société, ce courant indigéniste qui fait des ravages dans, par exemple, l'université française. On a vu il y a quelques jours un colloque sur la déradicalisation annulé du fait de protestations. On a vu Sylviane Aguinzinski qui est contre la
PMA. Interdite de parole
à Bordeaux. Elle est contre la PMA. La PMA est majoritaire dans le pays, mais elle a le droit d'être contre la PMA.
Elle devait parler du corps humain.
Bien sûr, bien sûr, et de la question de la marchandisation. Voilà, c'est ce vent mauvais dont je parlais. D'un côté, une tenaille identitaire, islamiste par exemple, et de l'autre, une tenaille d'extrême droite, chacun mettra qui voudra dedans, qui, à chaque événement, attise,
non mais je pense
attise
que...
sur le feu et souffle sur les braises.
Je pense que évidemment, c'est très complexe, puisqu'il ne faut pas non plus, malgré ce qui s'est passé, évidemment, il ne faut pas non plus mettre les problèmes sous le tapis et faire comme si, évidemment, ils n'existaient plus.
Bah, le sondage les a mis en avance,
C'est juste que, quand je dis que chacun a ses responsabilités, alors là, par exemple, je suis désolé, mais j'accuse le JDD. Parce que le JDD,
non, je
dimanche,
les défends, je suis pas d'accord.
Non, mais moi je les accuse.
Pourquoi avec eux, que
je les accuse, par exemple, d'un point tout simple, c'est que la défense de la laïcité arrive donc en septième position dans votre sondage.
Je vais nuancer.
Et la une, c'est islam et laïcité, ce que veulent les Français. Quand on veut continuer à souffler sur les braises, en rajouter, etc., ils auraient pu faire leur une sur la santé, qui est la préoccupation numéro un. Pardon de le dire.
Christophe, Frédéric là, vous savez comment ça se passe dans une surface, dans une ligne rédactionnelle.
Il faut faire de la vente, c'est du commerce.
Attendez.
Ce n'est que du commerce.
Christophe, je travaille avec le JDD depuis une vingtaine d'années, JDD, mais je vais les défendre. La question, c'est une question sur les priorités. C'est exactement la même de celle qu'on a posée ensemble fin août, où on avait vu pour la première fois, c'était un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et CNews, la santé arrivait en tête. Le fait que la laïcité est perçue comme moins prioritaire ne veut pas dire que ce n'est pas un enjeu où on peut interroger les Français sur ce
mais interroger
veulent.
Les Français, d'accord. Mais, en faire la une alors que ce n'est pas le sujet numéro un.
Non. Mais attendez, on ne fait pas des unes que sur les sujets numéro un. On s'intéresse aux signaux faibles. La lutte contre l'islamisme est citée par une majorité de Français. Et le fait que ce soit.
C'est comme faire la une avec ce voyou de Redouane Faïd, c'est pareil. Ce sont des choix.
Ce sont des choix éditoriaux.
Ça pose question.
Attendez, je suis...
Redouane Faïd, c'est quand même pas un héros.
Bien sûr, ce n'est pas, ce n'est pas un héros. Il y a une quarantaine d'années, j'étais jeune, Philippe
Mesrine,
aussi, toute la presse se battait pour avoir Mesrine.
Exactement. Justement, on va parler d'un autre sujet, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont perturbés en ce moment, c'est les trains, la SNCF et la grève continue.
C'est un vrai sujet.
Alors, moi je suis assez halluciné quand même, parce que quand vous voyez que des agents de la SNCF qui travaillent donc dans ce centre technique à Châtillon, près de Montparnasse, sont capables de tout bloquer à eux seuls déjà. Ça déjà, c'est la première chose. Il y a quand même un problème. Je croyais qu'on avait mis en place un service minimum. Je ne sais pas où est ce service minimum, mais il n'existe pas.
Il était appliqué encore récemment.
Bon, exactement, mais il n'existe plus. Bon, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ces gens-là demandent aujourd'hui que leur jour de grève soit payé. Je pense que là, on marche quand même de plus
c'est
en plus.
C'est pas la première fois. Hein.
Non, mais c'est pas la première fois. Peu importe. On marche sur la tête dans cette histoire. Je suis désolé de le dire. Mais il y a un moment où, quand il y a une volonté de réorganiser le travail dans ce centre technique de Châtillon, c'est-à-dire de faire travailler plus de 35 heures des agents de la SNCF, que ces agents sont vent debout et disent non, qu'on retire le dossier. C'est-à-dire, mardi, la direction de la SNCF a retiré le projet. Donc, il n'y a plus de projet. Eh bien, on reste quand même en grève. Ah ben oui, parce que vous comprenez, quand même, les conditions de travail, ça fait 5 ans qu'on n'a pas été augmenté, et puis il y a la manifestation du 5 décembre, on est en préchauffe, etc. Voilà, c'est ça la réalité. Et qui paye, comme d'habitude, le contribuable et le voyageur.
Alors je vais être un peu moins virulent que notre ami Christophe. C'est vrai qu'il y a une conflictualité réelle à la SNCF. C'est vrai, c'était des enquêtes qu'on avait fait avec Sud Radio, que la réforme de la SNCF a été soutenue par les Français, que le mouvement social a largement échoué. Maintenant, on a l'impression que ces mouvements sporadiques, spontanés, par rapport auxquels le service minimum ne s'applique pas, sont une sorte de tour de chauffe avant le 5 décembre. Et on sent qu'on va peut-être avoir un 1995 bis à partir du 5 décembre prochain.
Oui.
D'un autre côté, il y a une dichotomie chez les Français. D'un côté, un attachement aux cheminots malgré tout, et d'un autre côté, un effondrement de l'image de la SNCF malgré son côté patrimonial.
La différence, c'est qu'en 95, Blablacar n'existait pas.
Ouais. Allez, on continuera juste après 9h ce débat en direct sur Sud Radio avec Frédéric Dabi et Christophe Bordet, entre autres rédacteurs en chef de Sud Radio, mais pas que. Et vous avez aussi la possibilité de nous rejoindre au 0826 300 300. On vous donnera la parole dans quelques instants. Et puis, je vous rappelle le sondage qui continue de jouer actuellement. La haine est-elle en train de gagner le pays? Le mot haine suite au tweet d'Emmanuel Macron hier soir. La République ne tolérera jamais la haine. Je cite, vous réagissez sur sudradio.fr, sur notre page Facebook de Sud Radio ou tout simplement sur le tweet @sudradio. On vous attend. Et nous retrouvons Frédéric Dabi et Christophe Bordet.
Frédéric Dabi, vous avez donc peur d'un nouveau 1995, automne 95, avec des grèves. Alors je rappelle pour ceux qui étaient trop jeunes, on ne pouvait se déplacer nulle part en France ou presque, enfin sauf en voiture ou à pied.
À pied. Oui. À pied, l'armée avait été réquisitionnée à un moment. Non, je ne suis pas oiseau de mauvais augure, mais on voit très bien que cette réforme des retraites constitue un tournant du quinquennat. Dans notre sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et CNews, on avait vu à quel point, au-delà du pouvoir d'achat, il y avait une défiance des Français à trois quarts sur la question de la réforme des retraites, parce que les Français sont sur une logique de d'air. C'est-à-dire, à chaque réforme, on leur dit que c'est la dernière réforme qui va sauver le système, et quelques années après, les pouvoirs publics reviennent dessus. Il y a cette question des régimes spéciaux. En 95, ils avaient réussi, les syndicats, à faire plier Alain Juppé, tout simplement aussi parce que les salariés du privé soutenaient les grèves. Il y avait une grève par procuration du public pour le privé. Ce n'est absolument pas le cas en ce moment dans les enquêtes d'opinion. On est plutôt sur la logique 2007 où Nicolas Sarkozy avait réussi à faire passer sa réforme des régimes spéciaux qui était en fait une réformette puisque tout était applicable 20 ou 30 ans plus tard.
Nous avons Bruno qui nous appelle au 0826 300 300. Bruno de Bordeaux. Tiens, même département que Christophe Bordet.
Bonjour. Bravo, Bruno.
Bonjour à vous tous. Alors, moi j'appelle, enfin, du coup ça fait un peu écho sur ce qui s'est passé hier soir, mais c'est plus sur le fait, j'ai l'impression que les politiques sont très avec des œillères ou dans une espèce de dictature de, comment dire, du conformisme, attendez, je retrouve pas mon mot, c'est plutôt la dictature du politiquement correct. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a de la frustration dans l'air, et en revenant à votre question du jour, la haine, est-ce que cette dictature du politiquement correct n'amène pas cette frustration qui amène cette haine et une incompréhension finalement?
Ah ben justement, on va en parler tout à l'heure, mais on va réagir Christophe Bordet.
Mais je comprends pas très bien, quand vous dites frustration, frustration de quoi? Il faudrait... Attendez. Il faudrait libérer la parole raciste des uns et des autres pour qu'il n'y ait plus de frustration dans ce pays? C'est ça que vous voulez dire ou quoi?
Bah, heureusement
clairement.
Que non, évidemment que
ah bon,
non.
Parce que
non.
On peut
non,
aller loin. Hein.
Bah, évidemment, là c'est trop facile. Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est que s'il y a des choses qui vont pas, qu'on puisse en parler... de façon civilisée, mais qu'on puisse en parler.
Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous avez raison. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas mettre sous le tapis un certain nombre de sujets et un certain nombre de problèmes. Mmh. La difficulté, c'est que, évidemment, à chaque fois que quelqu'un rajoute une pièce dans la machine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des esprits plus faibles, comme celui, visiblement, qui a quand même agi hier, hein, parce que tel qu'il est décrit aujourd'hui par la police, etc., on a bien compris, et par ceux qui le connaissent bien, on a bien compris quand même qu'il y a un problème à la base, pardon de le dire, mais c'est une réalité. Et donc, effectivement, la difficulté, c'est derrière ça, on gère comment? On gère comment ces gens-là qui peuvent être complètement, justement, ingérables. C'est ça la difficulté, parce que là, on est face à ça. Le type, il avait quand même, il faut le rappeler, écrit une lettre la veille ou l'avant-veille qu'il a envoyée à Sud-Ouest, qu'il a envoyée effectivement aussi, je crois, au président de la République, oui. Enfin, pour se plaindre en tout cas du chef de l'État et de la manière dont il abordait le sujet sur l'islam en France. Donc, il était quand même dans un état d'esprit global chauffé à blanc, si je puis dire. Et le résultat, on l'a. Et moi, je voudrais juste rajouter une chose, oui, il faut dire les mots. À mon avis, c'est un attentat. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas dire que c'est un attentat. Ou alors, ça irait dans un sens, bizarrement. C'est un peu rapide et un peu facile, sinon.
Frédéric Dabi, qu'est-ce que vous voulez répondre à Bruno de Bordeaux?
Non, j'ai eu aussi du mal à comprendre la question de notre ami Bruno de Bordeaux. J'ai l'impression qu'on parle des problèmes. Il y a même parfois qu'on en parle trop. On a parlé de ces 83 émissions sur la question du voile. Et ça aussi, c'est un sujet, c'est un problème, la question de la place du religieux dans l'espace public. Mais ce n'est pas le sujet, et je rejoins ce que Christophe a dit tout à l'heure, de majeur et de préoccupation des Français. On attend avec impatience un débat serein. Dans une enquête IFOP fiduciale pour le JDD et Sud Radio, on voyait que sur les questions migratoires, la première idée qui venait aux Français, c'est on ne peut pas parler de ces questions de manière sereine.
Bruno.
Alors moi, ce que j'ai à dire, c'est que le voile en moi ne me pose absolument aucun problème. Mais alors, aucun.
Même pour les sorties scolaires, comme le Sénat va voter aujourd'hui.
Même pour les sorties scolaires, je ne vois pas en quoi ça pourrait déranger du moment que la maman qui a le voile respecte les autres enfants. Enfin, je ne vois pas où est le problème. Déjà, on a du mal, des fois, à trouver des parents qui veuillent bien accompagner les sorties scolaires. Pourquoi
c'est vrai que ce n'est pas toujours évident.
Bah, je suis désolé, moi je connais des profs, ils me disent, mais on galère à chaque fois pour trouver quelqu'un qui veuille bien nous accompagner. Là, la maman avait un voile. Du moment, quelque part, si elle se... Quel prix, ça ne me pose pas de problème non plus, du moment que ce ne soit pas en face des enfants.
Et est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut qu'il y a voile et voile ? Il y a le voile, enfin, les gants noirs, etc. Il y a le voile, on va dire, plus discret. Voilà.
Non, je pense que la seule différence qu'il y a entre voile et voile, comme vous dites, c'est un voile que la femme choisit de mettre par conviction. Et il y a le voile qu'on oblige à mettre dans une optique politique.
Christophe Bordet va vous répondre, vous allez échanger.
Non, mais c'est tout le problème, effectivement, et je pense que vous avez raison. C'est-à-dire que il y a un certain nombre de femmes qui décident de porter le voile pour des convictions personnelles et qui l'assument, et voilà, c'est pas un problème. Et puis celles qui, aujourd'hui, sont sans doute obligées. Il y a eu des témoignages, je crois que c'est dans Marianne la semaine dernière.
C'est dans Marianne, une femme qui a signé la tribune de Marianne, a dit « Moi, j'ai signé la tribune contre le voile, mais je suis obligée de le porter, sinon dans mon quartier, je me fais insulter. »
Voilà, non, mais il y a des quartiers où ça devient difficile. Et après, là où vous avez raison, c'est la difficulté de trouver des parents, par exemple, pour les sorties scolaires. Dans certains quartiers, c'est vrai qu'on va trouver plus de mères voilées que de mères non voilées. Donc, le résultat des courses, c'est qu'effectivement, les sorties scolaires se font avec elles, hein, la plupart du temps. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, elle est plus sociétale. Aujourd'hui, le problème, il est simple. On est tellement individualiste que lorsqu'il s'agit de faire une sortie scolaire, lorsqu'il s'agit de participer à une activité scolaire dans laquelle les parents devraient faire, par exemple, des crêpes pour les enfants, etc., personne ne veut le faire. Plus personne ne veut le faire, c'est chacun pour soi. Donc le résultat des courses, eh bien, vous savez, on a la société que l'on mérite, tout simplement. Voilà.
Mais vous,
de mon point de vue, on a plutôt la société qu'on laisse s'installer.
Oui, mais bien sûr, mais c'est ça.
Chacun... le voit comme il le veut, mais c'est plutôt à force de
mais justement,
de petites choses. Oui,
Bruno, vous n'êtes pas contre le voile pendant les sorties scolaires. J'ai dit, il y a voile et voile, mais il y a quand même une question qui se pose. Dans ces cas-là, si une mère peut venir avec un voile, une autre peut venir avec une grande croix et un père avec une kippa, ça ne pose pas de problème non plus.
Ben non, mais je vois pas. Si j'accepte le voile, pourquoi j'accepterais pas une kippa ou une croix?
Mais
expliquez-moi. Pour moi, c'est si on met toutes les si on met tout le monde au même pied, sur le même piédestal. Où est le problème? Le problème vient quand, par exemple, ou peut venir, si je suis dans mon bus, ou ma femme est dans le bus avec une jupe, et il y a des femmes voilées. Ce qui est arrivé, hein, ce qui est arrivé, dans le bus, elles viennent voir ma femme et lui disent « Mais ça, c'est inadmissible, tu montes tes jambes, c'est inacceptable, machin. » Et c'est à la limite, c'est de l'agresser pas. Heureusement, j'étais là, j'ai calmé le jeu, je fais « Bon, mesdames, laissez ma femme tranquille, et voilà. »
Ça c'est une vraie question, un vrai sujet. Christophe Bordet, vous vouliez parler rapidement d'un dernier sujet, l'hôpital.
Oui, alors, écoutez, l'hôpital, aujourd'hui, évidemment, il y aura le vote à l'Assemblée nationale du budget de la Sécurité sociale. On sait qu'il manque 200 à 250 millions d'euros.
Une paille
pour l'hôpital, surtout que la situation est déjà très difficile. Il y aura une manifestation des urgentistes cet après-midi devant l'Assemblée nationale durant ce vote. La question derrière tout ça, c'est que le président de la République veut faire croire à tout le monde qu'il va sauver l'hôpital. Il l'a encore dit récemment, il y a moins de 48 heures. Sauf qu'il dit toujours la même chose depuis en fait, qu'il est arrivé au pouvoir. C'est-à-dire, il ressort toujours la même chose. Et derrière, il n'y a aucun acte. Donc c'est quand même une difficulté majeure. C'est la préoccupation majeur et numéro un des Français, les questions de santé, la question de la santé. Et on voit bien que le gouvernement...
C'est même le sondage.
Oui, mais le gouvernement ne sait pas, le gouvernement, visiblement, ne sait pas par quel bout prendre l'histoire. On attend un plan de Madame Buzyn pour mi-novembre. On se demande bien ce qui va sortir du chapeau. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est qu'il faudrait de l'argent pour que ça fonctionne. Or, il y a toujours de moins en moins d'argent pour l'hôpital. Donc, on ne voit pas comment ça pourrait fonctionner. Aujourd'hui, on a des infirmières qui demandent 300 euros de plus par mois. Il est bien évident que le gouvernement ne va jamais accepter qu'il y ait 300 euros de plus
par infirmière.
De plus par mois, je vais y arriver. Et donc, résultat des courses, je pense que l'hôpital et la situation de l'hôpital n'est pas prête de s'arranger, tout simplement. Voilà.
On va en reparler beaucoup de l'hôpital. Merci beaucoup Christophe Bordet, Frédéric Dabi et merci beaucoup à Bruno de Bordeaux.
Et je vous rappelle toujours, suite également à ce débat, et on en parlera dans quelques minutes puisque cela fera le sujet de l'enquête, le sondage que l'on vous propose sur sudradio.fr ou par Twitter, @sudradio ou sur notre page Facebook de Sud Radio, où vous êtes très nombreux également à réagir. La haine est-elle en train de gagner le pays? On parle de haine suite au tweet du président de la République qui, je cite, « La République ne tolérera jamais la haine ». Vous en pensez quoi? On en parlera avec nos deux débatteurs. Nadir Kaya, qui est président de l'association Banlieue Plus, aux côtés de Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National. Le rendez-vous est pris. Ce sera l'enquête à partir de 9h15. Restez avec nous sur Sud Radio. Vous y êtes bien. On vous garde.